La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue lorsque la bise fut venue. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine. Celle-ci lui répondit tout de go « Entre donc, j'ai de la choucroute en pot. Je te l'échange volontiers contre un coup de main lorsque l'hiver sera passé. » Et c'est ainsi qu'au cœur du froid rigoureux s'éveilla l'amitié de cœur chaleureux. Ah, les fables de La Tonfaine, tellement plus sympas quand on les réécrit pour le monde de demain plutôt que pour l'éducation de Louis XIV. Parlerons-nous choucroute aujourd'hui ? Peut-être, peut-être. Lactofermentation, certainement. Aujourd'hui, nous abordons un point périphérique du jardin, la conservation. Car la saison de l'abondance peut et doit durer. Hein, si on veut croûter en hiver, il nous faut garder un peu d'été pour l'hiver. Alors, comment faire ? Comment conserver en préservant ses ressources ? C'est le sujet du jour dans Couleur Terre. Mais d'abord, c'est le moment des réponses à vos questions. Questions que nous prenons sur les réseaux, mais que vous pouvez adresser à questions@radioperma.org. Mais je me rends compte à cet instant que je n'ai pas salué mes acolytes qui sont autour de la table et pas les alcooliques, puisque nous vivons du jus de pomme et de l'eau fraîche. Titane, bonjour.
Bonjour, Floem.
Bonjour, Hélène.
Bonjour.
Es-tu prête à subir les questions des auditeurs ?
Allez, chiche.
Alors, Vincent Tadeo nous signale « Bonjour, j'aimerais avoir votre avis sur la bouillie bordelaise. Je ne l'ai jamais utilisée, j'ai planté pas mal de tomates en serre à l'extérieur et là, il pleuvine depuis 2 jours et ça va continuer encore 2 jours. Merci d'avance pour vos commentaires. » Alors, j'ai vu un commentaire non-verbal avec la main. J'ai du mal à le traduire, mais ça faisait un truc de genre « Oh !» Alors, c'était quoi ?
Ben, c'est juste que c'est bien qu'il l'ait jamais utilisé, c'est super.
Voilà.
Qu'il continue.
Continue d'arrêter, c'est comme
voilà, après, on en avait parlé dans l'émission sur sur la santé des plantes. Là, si effectivement c'est humide, chaud et qu'on a peur qu'il y ait des champignons, qu'il y a des risques, à ce moment-là, faire de la prêle, de la tanaisie avec de l'aquilée, enfin les recettes qu'on a données.
Des extraits fermentés.
Extraits fermentés ou décoction de prêle, parce que ça va plus vite à faire. On fait une décoction, en 20 minutes c'est fait, on rajoute de l'infusion d'aquilée et puis voilà.
20 minutes de décoction, il faut faire des...
La prêle, oui.
D'accord, carrément. Et puis ensuite, infuser. Tu as une idée des proportions ou pas ?
La prêle, c'est assez variable. De 60 grammes en biodynamie, on met 60 grammes. Et après, on peut trouver des recettes jusqu'à 150 grammes par litre.
Par litre. Et ensuite, ça dilué 10 fois une fois qu'on
alors,
a fait ça ?
Alors, après, la prêle, oui, on la redilue, pas 10 fois, mais enfin à peu près. C'est pas grave si on fait 10 fois.
D'accord.
Et puis, on peut renforcer l'action avec de l'aquilée, des fleurs d'aquilée millefeuille. Donc, on va faire en infusion ou en macération qu'on a déjà préparé avant, et parce qu'il faut agir vite quand ça commence. Il vaut mieux être en préventif, donc ça veut dire qu'on va aller pulvériser ça sur le sol avant même de voir le champignon apparaître.
Donc après on passe à la pulvérisation, on passe pas ça à l'arrosoir.
Non, pulvérisateur c'est aussi bien, c'est mieux parce qu'on passe moins de produits. Comme il pleut déjà, c'est pas la peine d'aller.
Ok, bon bah Vincent, la bouillie bordelaise, tu ne l'as jamais utilisée, et surtout continue de ne jamais t'en servir. Tu peux faire des extraits fermentés de prêle sans souci.
Plutôt une décoction.
Plutôt une décoction dans ce cas
parce
précis.
Que l'extrait fermenté, il faut quand même attendre au moins 4-5 jours minimum.
Ah.
Toi, alors la décoction, tout de suite, c'est fait.
J'ai fait une confusion de termes. Une décoction ou une infusion. Réécoutez cette merveilleuse émission sur la santé des plantes. Claudine Poulain a une petite question. Après la récolte des pommes de terre dans mes friches, comment j'utilise cet endroit ? Comment planter des poireaux ou repiquer plutôt des poireaux, qui est le cycle normal de la culture ? Ah, bon, bizarre comme question pour moi. En même temps, c'est moi qui l'ai sélectionné.
C'est-à-dire qu'elle veut mettre des poireaux
incohérent.
Après les patates ?
Je crois qu'elle veut mettre des poireaux avec
après
des patates.
Après les pommes de terre ?
Ça me paraît pas.
Ça paraît un peu... ça fait un peu tard quand même, hein, parce qu'à moins qu'elle ramasse ses patates au mois de...
Nouvelles, oui, voilà, tu vois.
Ouais.
C'est les patates. Après, ça peut être des poireaux un petit peu plus tardifs, non ?
Mais oui, éventuellement. Mais pourquoi elle parle de friche ? Enfin, déjà, ça change pas.
Ouais, c'est peut-être ses champs, j'en sais rien.
Oui.
Moi, je mettrais des haricots après les pommes de terre, mais sauf si elle a cultivé en même temps. Mais cultiver les haricots et les pommes de terre en même temps, c'est pas simple.
Encore... Tout dépend à quelle période elle ramasse ses patates.
Oui, c'est ça. Parce qu'effectivement, si les poireaux... Si effectivement, c'est des pommes de terre qu'on ramasse en septembre, en août, en septembre, en juin... Si c'est
des
pommes de terre nouvelles... Oui, les salades. C'est un grand classique, les salades.
Salades, on peut les mettre partout, c'est
voilà,
ça qui est bien.
En 3 semaines, 1 mois, c'est fait. C'est bon, vas-y, Claudine, mets de la salade à la place de tes patates.
Tout dépend de la période, quoi.
Clairement. De la feuille... Ça va, part plutôt sur de la feuille, ça va le faire. Michel Mouchet, Bonjour à tous. Petite question. Ils ont que des petites questions, je ne sais pas pourquoi. Dans mon village, j'ai un cerisier qui fait juste des cerises à tomber. Bon, bah, il faut les ramasser.
Tomber par terre.
Ouais, voilà. Est-il possible que je prenne une branche et de faire repartir un cerisier chez moi avec ça, ou avec le noyau, ou les amandes du noyau, ou avec la cerise elle-même ? Auriez-vous les étapes détaillées du comment procéder ? Bon, alors, les étapes détaillées, Michel, ce n'est pas maintenant que je vais te les donner, parce que là, moi, je vais surtout te parler de greffe, probablement.
Bah, en tout cas, on peut déjà répondre sur les branches. On ouais. ne peut pas faire repousser un cerisier et avec voilà. la branche, ça ne marche pas.
Et non,
par contre, ça a déjà dû lui arriver de faire tomber une cerise et de voir un cerisier qui pousse tout seul. Hein. Mm-hmm. Donc, on peut, à partir d'une cerise, faire pousser un merisier.
Ouais. Bah, le après, souci, c'est greffer, que, voilà, ce le souci c'est que derrière, il faut le faire greffer. Parce que, sache, cher Michel, que la plupart des prunus, surtout les cerises, par exemple, quand on a des cerises Burla, sont des clones d'une plante qui a été trouvée en plus par Monsieur Burla il y a fort longtemps. Donc en fait, c'est qu'on va prendre une branche, puis ensuite on va la greffer sur un cerisier un petit peu plus sauvage. Parce que après, quand la génétique s'en mêle et que il y a du sexe dans les arbres, eh bien, les caractères vont être un peu tous mélangés, et puis le burla va se perdre en route, et du coup, on n'aura plus rien. C'est ce que, des cerises sauvages. Mmh. Alors, ça peut être très bon aussi, mais ça aura probablement des caractéristiques différentes de celles du parent. Outre le fait que ça prend un certain temps. Par contre, si tu te trouves un merisier sauvage qui a déjà un peu grandi, tout ça, et puis qu'avec une branche de ton bon cerisier a tombé, eh ben, tu vas faire de la greffe. Alors, tu peux trouver quelqu'un qui te le greffe, hein, ça peut arriver, ou alors ça se trouve des artisans greffeurs, notamment dans les pépinières, choses comme ça, ou alors tu peux apprendre toi-même greffer. C'est un savoir très très intéressant à maîtriser.
Après, ce qu'il peut faire, parce qu'un cerisier ne meurt pas du jour au lendemain, donc il peut déjà garder les repousses qui viennent à partir des cerises de son cerisier.
Oui.
Parce que c'est toujours mieux que l'arbre ait poussé chez soi, à partir de, dans son terrain, à partir du fruit, quoi, de la graine. Et après, il va le greffer sur son pied à lui.
Et donc, si tu veux, Michel, planter un cerisier à partir de la graine, ne pars pas de l'amande du noyau. En fait, plus le noyau est humide, en fait, plante carrément la cerise complète. Ce sera beaucoup plus efficace. Le noyau séchera beaucoup plus lentement, parce que quand un noyau est sec, il est mort chez le cerisier. Donc, il vaut mieux le planter en chair, on va dire ça. Donc voilà, j'ai pas les étapes. On te détaillera peut-être pas tout ça.
Ouais, en même temps, quand on crache des noyaux de cerise, on voit bien.
Je sais pas, j'ai jamais vérifié si dans mes cibles de tir de noyaux de cerise.
Moi je sais parce que c'est tout.
C'est devant chez toi, c'est ça, t'as tes petits enfants qui
crachent des noyaux. Enfin, j'ai déjà vérifié plusieurs fois, quoi. Parce qu'après, t'as des pousses de cerisier un peu partout, puis tu dis, ah, quand même, je vais pas l'arracher, tout ça. Donc,
je pensais que c'était dû aux oiseaux et pas au crachat de noyaux.
Quand j'ai des crachats, tu peux faire délicatement.
Ah oui, voilà, avec le bout du doigt.
Avec l'élégance.
Oui, voilà. Avec l'élégance,
qui est une attitude. Bon, eh bien, c'est la fin des questions du jour. Nous vous laissons en compagnie de... Aujourd'hui, c'est Herbie Hancock. Herbie Hancock, voilà, de son album Promeneur. Non, c'est pas cet album-là du tout, c'est juste Herbie Hancock et c'est une compilation. À tout de suite. Thank you.
terre, cultivons la vie, une émission animée par Hélène Hollard, spécialiste en agroécologie, Floem Sève, spécialiste en permaculture, et Lucie Aubin, journaliste, tous deux à retrouver sur Radio Permaculture, et avec bien sûr notre ami fidèle Laurent à la technique.
Adressé aux jardiniers chevronnés, en devenir ou tout simplement aux curieux ou dépassés par leur jardin, une émission qui sera à votre écoute, à vos questionnements, en donnant de fertiles matières à réflexion.
Comment respecter la vie et intégrer ce respect dans nos pratiques culturelles, économiques et sociales?
Comment construire une agriculture saine et vivante, indispensable à l'humanité, et trouver une autre compréhension de l'écosystème urbain et rural?
Et pour ce faire, une équipe de choc et diversifiée se réunit à ce micro pour partager ensemble ses savoirs spécifiques.
C'était Herbie Hancock, The Maze, le labyrinthe. Vous êtes sur Couleur FM 97.1. Aujourd'hui, nous parlons conservation. Mais avant de conserver, il faut savoir bien récolter, n'est-ce pas, Hélène? Parce que la première des conservations, en fait, c'est de ne rien transformer du tout. Mais pour pouvoir bien transformer, il faut avoir bien récolté.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire bien récolter?
Bah, déjà récolter.
C'est vrai, récolter. Ouais.
Déjà récolter, faire attention.
Parce que quand on récolte. Si on récolte pour manger tout de suite, déjà par exemple en ce moment les courgettes, je ne sais pas si vous avez remarqué les courgettes, on trouve que les courgettes, si tu achètes des courgettes, elles sont minuscules comme ça.
Ouais.
Donc c'est des fruits qui ne sont pas finis. Donc en fait, même pour manger immédiatement, ce serait quand même plus intéressant d'attendre que le fruit soit à maturité. Bon, ça c'est encore une autre question.
Oui, en termes de nutriments et de choses comme ça.
De nutriments, et puis pour la plante, pour l'ensemble des choses.
Après, les courgettes, si tu attends vraiment longtemps, ça fait des gourdins quand même.
Oui, ça fait des gourdins. Entre les deux.
Voilà, parce que c'est quand la maturité d'une courgette
Oui, si elle est quand même complètement jaune et presque... Non, ça c'est pour les graines par contre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même pour manger, il y a des choses qui sont valables et qu'on va dire là pour conserver, quoi. Par exemple, de prendre un fruit bien mûr, eh ben, c'est hyper important pour conserver, mais ça va être aussi important pour le manger. C'est-à-dire que très souvent, si on achète des choses, si on fait son jardin, c'est un peu différent. Mais même dans son jardin, si on ramasse des fruits, par exemple, qui ne sont pas mûrs et qu'on les finit de les faire mûrir à la cave ou autre chose, ça n'a pas la même teneur et le même goût, etc., que des fruits qu'on va ramasser mûrs sur l'arbre.
Et en même temps, par exemple, moi je pense aux kiwis, parce que c'est ça que je ramasse généralement pas mûrs pour les faire mûrir pendant 3 mois après. Ça me permet d'avoir des kiwis pendant 3 mois. Alors que si j'attends qu'ils soient tous mûrs sur l'arbre, ce serait une richesse en nutriments instantanée, mais qui ne sera pas durable sur longtemps. Je n'arrive pas à faire durer mon abondance.
Donc après on s'adapte. On adapte entre les choses. Mais en tout cas, quand on veut conserver, c'est quand même important que de prendre le fruit ou les légumes à maturité.
Surtout qu'en plus, la conservation derrière, il va y avoir souvent des pertes de nutriments liées aux transformations, si jamais on transforme, et liées simplement à l'oxydation et au temps qui passe, à l'oxygène.
Même si on conserve comme ça. C'est pour ça que c'est d'autant plus important. C'est important. Après, on peut... On a parlé un peu du calendrier lunaire, de biodynamie, etc. On peut choisir les jours où on va récolter, parce qu'on sait que si on récolte en jour fleur, c'est-à-dire en jour où la lune passe devant des constellations d'air, les produits qu'on ramasse vont se conserver beaucoup mieux que si on prend, par exemple, devant une constellation d'eau et que là, ça va avoir tendance à pourrir plus facilement. Donc, on peut aussi prendre en compte ça. Après, il y a aussi l'humidité ambiante. Ça, après, c'est des choses de bon sens, quoi.
Oui. Si ça fait trop humide...
Pas ramasser en plein cagnard, pas ramasser sous la pluie. Après, il y a des choses... Par exemple, les pommes de terre,
pourquoi pas les laisser traîner sous la pluie, parce que c'est du bon sens, mais nous, c'est peut-être intéressant qu'on explique quel est le bon sens.
Si tu ramasses,
sous la pluie.
Pour prendre un exemple, déjà, c'est pas grave pour soi, mais si tu prends quelque chose qui est déjà plein d'humidité, t'as plus de chances après qu'il y ait des moisissures, que ça pourrisse...
C'est d'ailleurs, moi je ne supporte pas dans les grandes surfaces où l'on humecte continuellement les fruits et légumes. Si par exemple on a des carottes et qu'on les prend mouillées, effectivement, dans le bas de son réfrigérateur, ces carottes ne vont pas rester très très longtemps.
Ils font ça, tu vois.
Oui, ça se produit de plus en plus.
Pulvérise.
Alors souvent, je demande pourquoi, parce que je ne suis pas contente.
Après, ce que tu dis, c'est intéressant aussi, parce que par exemple, moi, je garde jamais des légumes au frigo. Le frigo, il faut savoir que ça dessèche énormément les légumes, ça les déshydrate beaucoup. Quoi. Donc, ce n'est pas le meilleur endroit. Bon, si on a un appartement, qu'on a que ça, c'est sûr qu'on va faire comme ça. Mais si on peut avoir un endroit frais, une cave ou bon, enfin, ce qu'on veut, même dans les appartements, quelquefois, il y a des espèces de petites arrière-cuisines qui sont plus frais, ça sera mieux que le frigo.
Oui, pour conserver les carottes, effectivement, le bac de sable est quand même plus efficace.
Mais même quand tu les achètes pour les manger, il n'y a jamais besoin de passer par le frigo. Même les carottes, les fenouilles, les tomates, tous les légumes, quoi. En fait, c'est pas, ça ne les arrange pas d'être passés par le frigo.
Ça suppose d'avoir une gestion aussi, une gestion un peu au jour le jour quand même de sa fourniture. C'est-à-dire que ce dont tu me parles, j'y suis sensible parce que moi j'ai la possibilité d'aller au marché deux fois par semaine. Je sais qu'il y a des gens qui vont faire leurs courses une fois par semaine, parfois même moins, et qui ne se rendent pas compte que quelque part ils vont acheter des nutriments qui vont juste s'évaporer s'ils achètent des fruits frais ou des légumes frais. Mais derrière...
Oui, c'est pour ça que je parlais d'une cave ou d'un endroit frais dans la maison. Moi, je connais quand même pas mal d'appartements dans lesquels tu as une espèce de petite arrière-cuisine qui est jamais chauffée, qui est aérée et qui peut aller très bien pour conserver les légumes.
Ça se faisait
et
beaucoup dans les appartements anciens, dans ce genre de choses.
Même dans les
galtas
des nouveaux...
Je sais pas, j'en ai pas vu depuis un bout de temps dans les constructions neuves d'avoir un réduit ou une arrière-cuisine. Souvent, c'est des trucs d'architectes qui ont pensé ça pour eux-mêmes parce qu'ils connaissent cet usage-là. Mais dans les programmes actuels, je n'ai pas beaucoup souvent de galta, quoi.
En tout cas, bon, ça peut... Enfin, moi, j'ai des exemples où ça existe dans des logements assez récents. Mais sinon, voilà, il faut éviter le frigo, quoi.
Ouais. Sinon, ça dessèche et puis ça rend froid, etc. On peut mettre d'autres choses. En ce qui concerne la récolte aussi... Bon, en ce qui concerne les choses qu'on va mettre en conservation, passons sur la...
Alors, conservation
en tant que telle, juste alors, sans transformation.
Oui, juste, pardon, quand on parlait, je commençais à parler des pommes de terre tout à l'heure, par exemple. Les pommes de terre, on ne les laisse pas traîner, une fois qu'on les a sorties de terre, en général, on les laisse sur la terre pour que la terre se sèche. Il ne faut pas les laisser traîner trop longtemps, sinon elles vont devenir un peu vertes, là.
Ouais, elles vont
développer de la solanine, et ça, c'est toxique. Donc, on les laisse sécher, mais justement, on ne va pas prendre ça un jour où il fait un grand soleil, où il fait trop chaud.
On les laisse sécher, mais on ne les laisse pas verdir.
On ne les laisse pas trop longtemps, quoi. Donc, dès que la terre a séché, on les rentre. Ça, c'est important parce que moi, je trouve que même sur les marchés, on voit des pommes de terre qui ont du vert, quoi. Et ça, après, on l'enlève. Donc, bon,
c'est perdu.
C'est bien quand on fait du compost, mais
ouais.
On n'achète pas des trucs à manger pour les mettre au compost.
Non, c'est pas. Donc, non. On mettra nos toilettes sèches au compost. Il faudra d'abord que ça soit passé par un tube digestif avant qu'on ait composté l'affaire.
C'est quand même mieux.
C'est quand même mieux.
Voilà.
Donc quand top conservation.
Après,
un petit
donc
peu,
conservation,
quand même.
Oui. Donc,
conservation. Bah, pommes de terre. Tiens, pommes de terre.
Alors, pommes de terre.
Comment?
Pommes de terre, le mieux, c'est donc si on a une cave, c'est à la cave et dans l'obscurité. Donc c'est la fraîcheur un peu humide des pommes de terre, faut pas que ce soit trop froid, pas trop chaud non plus, mais il faut qu'il y ait de l'humidité et de l'obscurité.
Si c'est trop sec, elles se dessèchent.
Voilà, si c'est trop humide, elles pourrissent. Et si elles ont de la lumière, elles vont commencer à germer. Déjà, elles vont avoir tendance à germer dès que la température va monter un peu, etc. Donc c'est mieux de, si on peut pas faire autrement, de les couvrir, bâcher ou un truc comme ça, mais qu'elles soient dans l'obscurité jusqu'au moment où on voudra les replanter, quoi. Parce qu'on parle quand même plus dans cette émission à des jardiniers.
Le papier journal, c'est bien de les couvrir, papier journal.
Dans ta cave
en général, oui.
Ou dans ton...
dans la cave.
Ça dépend, tu lis quoi comme journal? Figaro, non.
Je leur demande, mais...
Il y a beaucoup de salades dans les journaux, mais des patates.
Tu veux dire, tu couvres après, tu les mets en vrac et tu couvres avec du journal, pourquoi pas? Parce que le journal, tu peux même l'humidifier un petit peu s'il fait trop sec, par exemple, si ton endroit n'est pas trop adéquat. Oui, donc les pommes de terre, ça qui est mieux.
Les
betteraves, on peut faire comme ça aussi.
On peut faire la même chose. Carottes,
le mieux, donc, c'est dans les silos.
Silos, c'est quoi?
Donc, silos, c'est...
Oui, non, mais je te...
C'est creuser un... On creuse un trou dans la terre. Alors après, ce qui est important, c'est de mettre un grillage autour du trou, enfin tout au fond, tapisser tout le trou avec du grillage à poule, là, du petit grillage, parce que sinon, on risque de se les faire bouffer pendant la saison.
J'ai des amis permaculteurs qui récupèrent des tambours de machine à laver,
ouais.
qui ouais, s'ouvrent par le haut, ça. Ouais. Ils en ont 3-4 alignés qui dans leur jardin. Ouais. Et du coup, ça fait comme, des, entre guillemets, des caves à carottes.
Oui, alors après, quand on met les carottes, on ne met pas les carottes les unes sur les autres. On les met avec du sable.
Ouais.
Mais oui, ça peut être un tambour de machine à laver, ça peut être de mettre du grillage.
On met du sable et ensuite on les plante.
On met les carottes, après on remet du sable.
Et ainsi de suite. Mm-hmm. Poireaux, on peut faire pareil aussi.
Poireaux, non, c'est pas...
Non.
Ça vaut pas le coup, les poireaux, ils restent dehors. Si la terre est gelée, ben, on attend que ça dégèle. Puis voilà.
Ben, ça dépend, après, quand ça s'annonce à être bien froid, l'an dernier, j'ai des poireaux congelés.
Ils ont gelé tes poireaux.
Mais pourront geler cette année. Ouais. Ouais, bah, pas de chance.
Oui, parce que c'est rare.
Bon, alors du coup, je les ai pris comme étant des légumes congelés. Et puis après, je les ai pas laissés dégeler, je les ai boulottés. Donc bon, voilà. Mais je me suis dit, ah, j'aurais peut-être.
Oui, parce que normalement, le poireau, c'est vraiment un des légumes qui peut rester dehors sans problème. Quoi.
Mais tu vois, là, je me suis dit, tiens, ça vaudra le coup l'année prochaine, peut-être d'en mettre 2-3 en protection, juste comme ça, au cas où.
De les protéger alors avec un voile
par exemple,
laisser en terre avec un voile par dessus
par exemple,
parce qu'après
parce que moi mes betteraves avaient plutôt bien survécu. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'était mal, c'était un peu bizarre.
C'est bizarre, moi j'ai jamais vu, hein, mais en tout cas oui, je pense que ça peut le mieux c'est de les protéger dehors.
Bah ouais, jusque là ça avait marché et puis là bon ben voilà, exception qui confirme la règle. Donc en silo, soit en pleine terre. Parce qu'à partir de 50 cm de profondeur, de toute façon, on est à 15 degrés toute l'année. Donc, en pleine terre.
Et puis mettre après, repérer où on met le silo.
Oui.
C'est judicieux. On se rappelle plus.
Oui, très bonne idée. C'est, sinon,
vous piquets, de la paille ou quelque chose.
Vous enterrez des casse-croûtes pour les archéologues du futur. C'est pas très utile.
Enlever les fans des carottes.
Ouais.
Avant de les,
Mettre en terre de silo. Faites de la soupe avec.
Oui, ou en salade. Pas mettre que ça.
Oui, il y a plein de salades. Nos salades agroécologiques permaculturelles sont, pour beaucoup de gens, sont un peu des purges. Hein, mais...
Non, mais on peut en mettre un petit peu avec de l'autre salade. Voilà, on peut pas mettre que des fans de carottes.
C'est ça.
Moi, j'aime bien. Navets, pareil.
Légumes racines, ils aiment bien être.
Oui, en silo.
On peut les mettre en silo. Ça gêne pas trop. Dans la catégorie
Il y a un truc qui est un peu différent pour la conservation, c'est les courges, enfin toutes les petits marrons et compagnie. Ça va pas se mettre à la cave, va se mettre à... Alors, c'est pareil, à la campagne on les mettait traditionnellement dans les chambres qui n'étaient pas chauffées, sur les armoires, parce qu'il faut que ça soit sec, pas trop chaud
mais pas trop froid non plus.
Ouais, en fait, c'était bien.
Les moisissures qui sont sur les potimarrons, en fait, se développent dans le froid, ce qui n'est pas complètement logique et complètement idiot dans la mesure où c'est des végétaux qui arrivent à maturité à l'automne. Les végétaux, les êtres vivants qui vont décomposer ça, ils sont carrément adaptés au froid, donc il ne faut pas garder. Là, j'ai encore une courge de Nice de la récolte de l'année dernière. Je ne l'ai pas mangé, j'avoue, parce que j'ai eu des potimarrons toute l'année. Ouais. Mais j'ai encore dans mon escalier une courge de Nice, une espèce de gros truc. Là, j'ose même pas le démarrer parce que je me dis quand je vais l'avoir démarré, il va falloir que je
la mange.
Bon, voilà. Mais du coup, elle était à bonne température dans ma cage d'escalier.
Température et humidité, je pense, c'est les deux. Quoi. Et c'est vrai, ça peut se garder longtemps.
Ça se garde très longtemps. Ouais. La courge de Siam, qui est une courge qui est hélas pas très goûtue, mais blanche, assez jolie, avec des graines noires, ça se garde au bas mot 2 ans. Quoi. Dans des bonnes conditions, ça peut aller très très loin, les courges.
Ouais. Là, moi, je mangeais un petit rond de Hongrie, là. C'est encore intact. Après, c'est vrai que dès que tu l'ouvres, tu es obligé de manger vite. Quoi.
C'est ça. C'est
donc,
souci.
Comme il y a plein d'autres légumes, on n'a pas trop envie de manger du potimarron.
C'est les courgettes nouvelles arrivent.
Courgettes nouvelles, tu vois. Voilà.
Sinon,
après, qu'est-ce qu'il y a
après, il y a un peu de musique. Et puis ensuite,
déjà
déjà. Bon, c'est qu'on nous étalons.
Oui, parce qu'on n'a pas parlé des fruits.
Ben, on parlera des fruits juste après. Ouais. Juste après Herbie Hancock.
Thank you.
Couleur FM 97.1. Vous écoutez Couleur Terre et c'était Herbie Hancock, Watermelon Man. Et nous parlons conservation et nous n'avons pas parlé encore de fruits. Et oui, 5 fruits et légumes.
Oui, parce que je trouve que les fruits c'est plus compliqué parce que ça vient souvent tout d'un coup. Ben oui, t'es obligé de les conserver.
Oui, non, mais je pense à complètement autre chose.
Ah bon ?
À une autre émission de radio. C'était... Ah. Je ne sais pas si ça se dit sur Couleur FM. Est-ce que, qu'est-ce que ce genre de... Ça peut se dire, c'était une émission sur... un concurrent national de France Inter qui faisait une émission de proctologie où il expliquait qu'on peut conserver des carottes très longtemps dans une cave mais dans le rectum 24 heures c'est le maximum. Comme quoi les conditions comptent beaucoup. Donc voilà, je
tout à coup l'image.
L'image de la conservation. Non mais vraiment en plus c'est pas du tout prémédité, c'est... voilà, ça vient comme ça. Voilà, les proctologues trouvent des choses incroyables dans leur métier et pas seulement dans leur métier. Revenons à nos moutons
à nos
et surtout à nos cartons.
Les cartons.
Les fruits. Quels fruits se conservent bien en cueillette ?
Non, pas forcément. Ouais, enfin, oui, c'est une façon. Enfin, disons les fruits, c'est pareil.
Moi, je
les
dis
fruits,
en cueillette. Mais...
Ouais. Par exemple, les cerises, ça ne va pas se conserver, très longtemps.
Non.
Donc, soit on les donne. Après, ce qu'on peut faire quand il y a beaucoup de choses, même par exemple les courgettes, quand on croule sous les courgettes ou sous légumes XY ou les fruits, on peut les échanger avec nos voisins.
Tout à fait. Ça, c'est une manière de conserver que je trouve de loin, non, mais de loin la plus satisfaisante parce qu'elle crée du lien social, des choses comme ça. Oui. Donnez à votre voisin et la fois suivante, il vous filera des figues. Moi, j'ai ça.
Oui, voilà, on fait des échanges parce que, oui, moi, je fais ça aussi avec les cerises. Cette année, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm-hmm. Bon, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait avec, à part de les manger, clafoutis, enfin, les échanger avec les voisins. Et après, donc, on peut les transformer, les stériliser comme ça. C'est-à-dire sans rien mettre d'autre.
Enfin, même pour aller plus loin, juste pour finir cet aparté, il y a les épiceries solidaires, les AMAP, les associations de quartier, des mamans de quartier, des centres sociaux qui sont parfois à la recherche. On pense au cerisier, moi. Un cerisier, ça fait pas juste 5 kilos de cerises. Quand il est à pleine maturité, nous, on tourne à 100 kilos par arbre au bas mot. Hein. Donc, quand on a fait toutes les conservations possibles et imaginables, il en reste encore. Et il y a des gens qui adorent les cerises, au prix des cerises, au prix de ces choses-là.
Moi, je fais plutôt le contraire. D'ailleurs. Je donne d'abord, et quand je peux plus faire, que je sais plus quoi en faire, je les conserve.
Okay. Oui, enfin, ça peut être synchrone au bout d'un moment, tu connais la production. Mais la question de créer de la bonne. Enfin, moi, c'est quelque chose de ne pas gaspiller cette abondance, pour moi, ça compte beaucoup parce qu'il y a des gens pour qui ça fait une vraie différence. En termes de nutrition, de joie, de bien-être. Et donner à vos voisins, ben c'est un rendu plus tard aussi.
Oui, après, il y a des sels aussi hein, qu'on peut...
En système d'échange local.
Voilà. Oui, et puis le resto du cœur.
Les restos du cœur, ramasser un cajou.
Pour leur faire plaisir,
Allez-y, hein, lâchez-vous. Peut-être que vous pouvez même parfois prévenir directement les associations...
Qui viennent cueillir.
Ça.
Moi, j'ai essayé, c'est pas évident.
C'est
parce
pas
que les gens, c'est pas la même culture au sens culturel. Ouais, donc, les gens, monter un arbre encore... mais c'est... Non, ils ne savent pas forcément faire, ils vont tirer sur les branches. Enfin bon, c'est délicat.
Ou alors il y a des associations qui restent à créer. Ça commence à venir, des coopératives gens qui se mettent ensemble pour acheter un petit peu de matériel pour ramasser des fruits. Et puis qui vont à tour de rôle chez les uns, chez les autres, qui cartographient l'endroit où il y a des fruits. Ça peut tout à fait se faire. Bon.
Voilà, donc les cerises, à part les cerises, les fraises aussi, c'est pareil. Enfin, les fraises, on peut les sécher.
On peut les sécher.
C'est délicieux,
On peut les sécher.
Bon, après par rapport à ta question du début, c'est plutôt les pommes, les poires, les fruits comme ça qu'on va mettre dans des cueillettes et puis dans des fruitiers. C'est-à-dire, c'est des endroits aussi où on va empiler les palettes, pas sur le sol. Il faut qu'il y ait de l'air qui circule. Et puis là, on fera ce que tu disais tout à l'heure, Titane, c'est-à-dire qu'on va voir un peu, peut-être pas tous les jours, mais régulièrement, et on tourne les fruits, on regarde s'il y en a qui s'abîment et on les prend. Comme ça, on mange toujours des fruits abîmés, c'est super.
C'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Alors, ne mangez pas le pourri. Hein. Le pourri des fruits, c'est vraiment pas bon. Les aflatoxines, ne mangez pas de fruits pourris.
Non, mais c'est pas obligé qu'ils pourrissent. Et alors, un truc pour qu'ils se conservent mieux, c'est de mettre des branches de laurier. Laurier sauce, on peut les mettre par-dessus les pommes.
Je
dis les pommes parce que moi j'aime pas les poires.
Mais oui, qu'est-ce que je suis bête.
Donc on les met dans on met la cagette, on met les pommes, on met juste une couche de pommes, on n'en met pas 50. Hein, et on met On pose du laurier sauce par-dessus, après on met une autre cagette et voilà, et ça c'est efficace.
C'est ma découverte de la journée, ça.
Oui, c'est
ah ben oui, non, mais je suis content parce que j'ai du laurier, je sais plus quoi en faire à chaque fois que je le taille.
Ça, ben, oui.
Et ben voilà, maintenant je sais quoi en faire.
Si t'as des pommes à conserver, voilà.
Ouais, vois, j'ai des pommes à côté du laurier, comme quoi. Ah, oh, la vie est bien fichue. Mais moi, je conserve aussi les kakis, un peu comme ça. Alors, ça dure beaucoup moins longtemps que les pommes.
Oui, c'est ça, c'est plus...
Mais il faut prendre les kakis quand ils sont encore durs, donc bien astringents. Donc, généralement, ça fait un peu peur aux gens de faire ça. Mais ils perdent en astringence au fur et à mesure que ça se lise, que ça vieillit un petit peu, que ça se ramollit. En fait, on les prend quand ils sont bien mous, quand ils sont tout fripés. Effectivement, c'est très bon. Mais c'est vrai que c'est une recherche... On passe pas mal de temps à la cave à vérifier où sont les trucs.
Parce que les kakis, ça peut rester un peu aussi sur l'arbre.
Ça peut rester sur l'arbre.
Mais...
Ça peut rester sur l'arbre. Après, il y a les oiseaux qui viennent taper dedans. Ouais. C'est pas non plus le
compromis
plus...
avec les merles, ça, c'est toujours
ça.
Compliqué.
La part des anges, moi, j'appelle ça.
Mais c'est vrai que les fruits, c'est plus... On a moins le choix, quoi.
Mm-hmm.
On peut pas dire, je vais échelonner la récolte. En général, c'est quand il faut y aller, quand on va ramasser même les pommes, on ramasse les pommes, on va pas y aller un jour.
Non. Et puis, c'est pas forcément judicieux non plus.
Après, on peut les transformer. Hein. Alors, je sais pas si on parle maintenant...
Parlons de transformation.
De confiture et compagnie.
On peut parler. Bah oui, c'est un peu le sujet aussi, parce que je pense que la plupart des gens qui entendent le sujet de cette conserver l'été...
Oui,
pensez tout de suite à la confiture, ça c'est le premier truc qui nous vient en fait, paradoxalement.
Oui.
Après la confiture de pommes, je sais pas.
Confiture de pommes, ça peut se faire.
Plutôt de la compote.
Jus,
ouais. Beaucoup, ça se fait.
Le jus, et après on peut pasteuriser, c'est pas très compliqué à faire chez soi, pasteuriser.
On fait de l'agneau avec le marc.
On peut, mais enfin, après je sais pas, est-ce qu'on parle de comment on fait pour pasteuriser chez soi ou pas?
Oui. Oui, parlons de ça, on a suffisamment de temps, non mais parce que c'est une méthode,
bien sûr,
en fait finalement on aura énormément de choses.
Bon en tout cas voilà, pasteuriser, on met tout le jus de pomme ou d'autre chose dans une grande casserole, on monte à 80 degrés et on laisse que 5 à maximum 10 minutes et on maintient cette température, c'est-à-dire on baisse le feu pour que ça reste à cette température, on ne laisse pas monter à ébullition. Et ensuite, on refroidit très vite, on met dans les bouteilles, on refroidit dans l'eau froide, etc. Quoi. Et ça peut se conserver très très longtemps. Et c'est quand même une des méthodes qui détruit le moins d'éléments nutritifs des jus. Quoi.
En fait, tu fais un choc thermique, tu montes à 80, ensuite
et
tu descends d'un coup.
Voilà.
Ce qui n'est pas la même chose que la stérilisation.
Non, c'est pas pareil. Et comme on met dans la bouteille où on ferme tout de suite, ça fait quand ça refroidit, ça fait une espèce de vide et donc ça, il n'y a pas de prolifération microbienne et ça peut se garder facilement 2 ans.
Mmh. Alors, la différence avec la stérilisation, c'est que la stérilisation, là, on fait bouillir très longtemps.
Très longtemps et à très haute température ou bien température plus la vapeur, enfin en cocotte. Donc là, on détruit tout. On détruit tout ce qui est vivant et tout ce qui va nous apporter à nous de l'énergie quand on va manger ce qu'on va manger.
Ouais.
Après, si on le sait, c'est pas grave. On va complémenter en mangeant des graines germées, des salades, des aliments crus, des fruits, etc. pour qu'on ait suffisamment d'enzymes pour digérer et pour apporter de la vitalité. Quoi.
Et la stérilisation, il faut se méfier un peu aussi du botulisme. Il y a un truc... Enfin, pour moi, la pasteurisation... L'intérêt de la pasteurisation par rapport à la stérilisation, après peut-être qu'en pasteurisation ça se retrouve, le botulisme, non il me semble pas.
Non parce que tu peux avoir des moisissures, des choses comme ça, mais par contre tu peux pas pasteuriser des haricots par exemple, c'est compliqué, il faut que ça soit un liquide.
Non, effectivement.
Donc on peut pas faire avec tout, mais la stérilisation si on le fait dans les bonnes conditions, qu'on vérifie bien...
La pasteurisation tu peux le faire avec du coulis de tomate,
jus, tout ce qui est liquide.
Et compote.
Les compotes.
Compotes aussi, il faut que ça soit liquide, quoi, toi.
Que ce soit liquide.
Que tu puisses transvaser. Et puis,
température uniforme et que le choc thermique puisse se faire bien.
Mais stérilisation, je pense que si tu fais bien comme il faut au niveau hygiène et que tu contrôles la température, le temps et que tu vérifies bien tes bocaux, etc., ça se rate, hein, comme tout.
Oui, bien sûr.
Donc, faut pas manger, par exemple, un bocal qui s'ouvre tout seul, faut pas le manger.
La difficulté de la stérilisation, c'est qu'il faut vraiment que le bocal... Pour moi, une des difficultés, c'est que ça demande du matériel. Enfin,
des bocaux.
Ça demande des bocaux. Bon, ça, c'est une
des
chose,
joints.
Mais derrière, des joints. Des bocaux, des joints. Et puis, une lessiveuse, enfin, un truc qui
non,
permet
moi, je fais
de...
la cocotte.
Ouais, mais dans ce cas, c'est des tout petits bocaux.
Non, comme ça, mais j'en fais 3
comme
ou 4
ça,
à la
fois. Ça fait 1 litre, quoi.
Ouais, 1 litre.
Ouais, 3 ou 4 à la
fois. Oui,
sinon,
ça
doit occuper, parce que derrière, t'en as pour 45 minutes, 1 heure à feu de bon bouillon,
cocotte,
quand même.
La cocotte, ça peut... moi, je fais surtout les cerises, comme ça, ou les haricots. Ça, c'est 10 minutes, un quart d'heure, quoi.
D'accord. Donc en cocotte fermée. Ok. En tout cas, sur ces thématiques-là, renseignez-vous si jamais vous voulez faire de la stérilisation, parce qu'en fait, en fonction des légumes, en fonction des produits que vous allez utiliser, vous allez avoir des durées de cuisson qui vont être différentes. Oui. Et tout ça consomme quand même, mine de rien, pas mal de gaz ou d'électricité. Je n'ai jamais essayé de faire ça sur le rocket stove ou au barbecue. Non, mais dire, ce serait une manière de rendre la chose plus...
Ouais, il faut monter quand même à une autre température. Quoi.
Mais il faut quand même monter à...
Avec les cuiseurs solaires, peut-être qu'on peut y arriver.
Peut-être un cuiseur solaire. Les cuiseurs solaires, c'est vrai qu'on monte...
On va haut, quand même.
On monte, on a fait une interview avec Radio Perma, on va jusqu'à 220, 230 avec certains cuiseurs. On va très
haut.
Oui,
on peut aller haut, donc ça pourrait se faire, peut-être.
Ouais, ça va.
Enfin, en tout cas, c'est sûr que ce n'est pas la meilleure méthode de conservation, on est d'accord. Mais c'est vrai que quand on croule sous les haricots ou sous je sais pas quoi, c'est quand même une méthode. Enfin là...
Vous entendez en arrière-son, vous entendez peut-être la pluie. Il pleut, chouette.
Et pour les haricots, par exemple, plutôt la surgélation, est-ce que ça... Non.
Mais la surgélation à domicile, c'est
impossible.
Il faut que ça aille très vite et très froid.
Tu confonds la surgélation et la congélation.
Et la congélation, pardon. Congélation.
On peut congeler, mais après, c'est une question de goût. Moi, par exemple, les haricots congelés, je trouve ça pas bon. Enfin, j'aime pas. Alors que les haricots stérilisés, je trouve que c'est meilleur au goût, quoi. Consistance, le goût.
Moi, ce que j'ai contre la congélation, c'est surtout que ça consomme de l'énergie en permanence, en fait. Une des deux grosses consommations d'énergie chez nous, chez les gens, c'est la production de chaleur et la production de froid. L'éclairage produit très peu, consomme très peu d'énergie. Un frigo, ça consomme 800 watts par jour. Ouais, c'est 800 watts par jour. Un congélateur, c'est probablement le même genre de chose. C'est énorme. C'est l'équivalent d'une heure de radiateur chauffant à bloc, quoi. Donc ça fait vraiment beaucoup, juste pour conserver. Donc, moi, je suis pas super fan de la... Des modes de conservation qui, en plus, c'était une panne d'électricité ou je ne sais quoi.
Tout est foutu.
Pour moi, c'est pas très durable d'avoir un truc qui. C'est pas très permanent. C'est pas très permacole d'avoir quelque chose qui demande en permanence d'être entretenu. Parce que la quantité d'électricité que tu mets dans ton congélateur. Encore une fois, est-ce que le légume que tu vas mettre dedans consomme ou t'apporte plus d'énergie que ce qu'il a été nécessaire pour le fabriquer. Enfin, il y a un truc, il y a une question de bilan,
rapport.
Quoi, de retour sur investissement, quoi.
C'est sûr que non, parce qu'il n'y a plus rien quand c'est congelé. C'est pareil, t'as au niveau des nutriments, il reste les fibres, il reste les minéraux, mais il reste plus tout ce qui fait la vie du légume, quoi, ce qui fait son intérêt. Mais par contre, quand t'as un jardin et des animaux ou pas d'animaux, mais quoi, c'est une question de temps, quoi. C'est beaucoup plus facile de gérer ça, et puis après d'ouvrir le congèle et de sortir quelque chose pour faire à manger, c'est plus facile aussi. Donc après, rien n'empêche de prendre des congèles déjà qui fonctionnent avec des énergies renouvelables, et d'avoir plutôt que d'être chez EDF,
d'être chez Enercop. Bien sûr, ça fait partie
parce que
de la
démarche. C'est une cohérence, au moins on sait qu'on
moi, le mien,
participe
il est chez
pas
Enercop,
au nucléaire. Moi j'en ai pas, tu vois.
Moi j'en ai un.
Mais voilà, déjà ça console un peu, c'est pas plus intelligent, mais ça console. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a, de quoi on avait les fruits?
Eh bien, il nous reste à écouter Herbie Hancock.
Ah ben voilà.
Et voilà. Et puis voilà, écoutez Jack Rabbit. Thank you. Couleur FM 97.1, c'était Herbie Hancock, Jack Rabbit. Nous parlons conservation et il nous reste une dizaine de minutes pour traiter toutes les formes de conservation qui restent et qui sont de loin les plus intéressantes, comme par exemple le séchage. Le séchage. Les chaussettes de l'archiduchesse sont elles séchées.
Peut-être que ce qu'on peut dire déjà sur le séchage, c'est qu'ils trouveront des plans, les gens peuvent trouver des plans pour fabriquer des séchoirs, par exemple sur le journal des 4 saisons ou sur Internet.
Passerelle Eco, ils font ça aussi très bien.
Internet, c'est pas très cohérent non plus, ça bouffe beaucoup d'énergie.
Passerelle Eco.
Oui, enfin voilà, on peut trouver des plans de séchoirs. Et après, le séchage, il est intéressant essentiellement parce que c'est lui qui va le mieux conserver la vitalité de ce qu'on va sécher. Et quand on mange, en fait, on mange pour le plaisir de manger, etc., mais on mange surtout pour ce que ça va nous apporter comme vitalité et comme énergie pour fonctionner, quoi.
Et oui, c'est cru et puis
voilà,
c'est juste de la déshydratation.
Donc tout reste dans le fruit ou dans le légume.
Le principe du séchage, idéalement, c'est que les légumes ou les fruits que vous allez sécher doivent être à l'ombre. En tout cas, il ne faut pas qu'ils soient exposés.
Déjà, il faut qu'ils soient mûrs, qu'ils soient propres, qu'ils soient dénoyautés, préparés. C'est ça qui est long.
Ah bah oui, mais il faut préparer, il faut cuisiner. C'est le principe, ça prend du temps. Eh oui, vivre bien, ça prend du temps quand on y pense. Mais bon, on peut être... C'est quand même... L'alimentation, c'est quand même... une des choses fondamentales de notre vie, et on a dans notre jolie société passé beaucoup d'énergie ailleurs qu'à l'alimentation, mais bon, une fois il faut.
Donc à l'ombre, aéré, circulation d'air.
Il faut qu'il y ait la circulation d'air. Ouais.
Un trou en haut du séchoir parce que l'humidité va sortir avec l'air chaud par en haut. Et puis après, on va faire plusieurs étages en général, et on va changer les clayettes, on va les alterner pour que.
Concernant le séchage, généralement, je vais rentrer un tout petit peu dans les détails, les meilleurs, entre guillemets, séchoirs faits maison, ils reposent sur le chauffage de l'air d'un côté et l'entreposage des aliments à sécher de l'autre. Le séchage, en fait, c'est une mini-serre quelque part, c'est un caisson avec une vitre, éventuellement de la tôle ondulée pour que l'air circule bien. Et puis d'un côté, donc tout ça est incliné à 45 degrés, et puis on met la boîte, entre guillemets, de séchage où il y a les légumes à l'intérieur, au-dessus. Et dans cette boîte de séchage, on fait des rayonnages avec, et c'est parfois un peu difficile à trouver, mais dans votre quincaillerie, vous pouvez trouver des clayettes en inox. Souvent, c'est vraiment mieux parce que la plupart des autres métaux vont s'oxyder. Si vous faites sécher des tomates, elles sont très acides. N'utilisez pas du galva, il vaut vraiment mieux utiliser de l'inox. Et dans certains, et puis un trou en haut de cette boîte là pour que l'humidité s'échappe. Et même dans certains cas, j'avais vu un séchoir qui était relié avec un petit panneau solaire et un vieux ventilateur d'ordinateur pour qu'il y ait quand même une circulation d'air, même faible en fait, ça suffisait largement à faire l'affaire.
Après, ce qui peut être intéressant, c'est que la rampe de captage de la chaleur soit inclinable.
Oui.
Pour qu'en fonction des heures de la journée, parce qu'ici, dans nos climats, l'été ne dure pas 107 ans. Et donc, comme ça, on peut capter les meilleurs. Les rayons du soleil aux meilleures heures. Quoi.
Ouais. La difficulté des séchoirs étant effectivement d'arriver à trouver quelque chose qui soit à la fois solide et en même temps léger. Parce qu'on est en permanence en train de le bouger quand on veut l'orienter correctement.
Oui, mais c'est important quand même.
Après, il y a des déshydrateurs électriques aussi, dans ce cas-là.
On
change de registre. On vous laissera vous informer ailleurs à ce sujet-là.
Oui, mais c'est quand même un des meilleurs systèmes de conservation, quoi, ça c'est sûr. Et on peut quasiment tout sécher. Fruits, légumes, tout.
C'est très impressionnant. Les cerises séchées, je vous le conseille, ça remplace très bien les raisins secs.
Même traditionnellement, tout à l'heure on parlait des haricots, donc moi j'ai jamais fait, mais les gens, il y en a qui enfilaient les haricots sur un fil et ils les mettaient devant la cheminée pour qu'ils sèchent, quoi. Mais c'est pareil, c'est un autre goût. Donc après, c'est une question de Et en plus, dans nos, en France en particulier, on est peu habitué à manger des légumes ou des fruits séchés, quoi. On mange très peu par rapport à l'Italie, par exemple.
Bah oui.
Maintenant, ça commence à se faire, ça rentre dans les mœurs, mais dans la cuisine, on n'apprend pas à cuisiner avec des légumes, séchés ou des fruits séchés, par les raisins secs ou les fruits secs comme
des
ça.
Des choses mises à l'huile ensuite, bien sûr.
Oui, c'est pas très traditionnel chez nous, mais ça commence à venir et c'est quand même bien, quoi.
Bah, c'est probablement lié aussi au climat. On a des climats où faire sécher, quand on est en Picardie, j'imagine que faire sécher, ou en Bretagne.
Bah, devant la cheminée.
Voilà, c'est ça. Voilà, au 14 juillet, on se fait une petite flambée pour faire sécher les haricots. Bienvenue à Plohermel.
Bah oui, hein, c'est un peu ça.
En tout cas, le séchage, une méthode à découvrir, à redécouvrir, à expérimenter.
Oui, juste un petit mot sur les légumineuses, parce que justement, les haricots secs et tout ça, par contre, c'est traditionnel, quoi. Mais ce n'est pas le même séchage, ils sèchent sur pied, quoi.
Oui.
Mais c'est quand même c'est plus
oui, le
connu,
haricot
quoi.
Blanc.
Blanc, rouge, flageolé, etc. Ouais. Quoi.
Ouais. Après, il faut les réhydrater, toutes les légumineuses, elles se...
Oui, c'est ça le problème des légumes secs, c'est qu'il faut penser à les réhydrater. Donc, ça veut dire qu'on n'arrive pas à la cuisine un quart d'heure avant de manger, quoi.
Non. Mais voilà. Par contre, tu peux toujours, tu peux toujours en faire en beaucoup pour en stériliser. Au pire, non, je veux dire, soyons. Allez, la prochaine émission, on fera sur les contradictions.
Oui. Hein. Et après, oui, la lactofermentation, si on veut en parler aussi.
Oui, on veut en parler aussi. On va essayer de parler de tout ça. Ouais. Lactofermentation. Qu'est-ce que c'est que la lactofermentation?
C'est moi qui réponds.
Bah ouais, je te pose la question parce que moi, c'est pas mon truc préféré. Je déteste la choucroute.
Ah ouais, d'accord.
Ça
non,
me supporte. Les carottes lactofermentées, j'aime pas ça. Mais c'est très bon, paraît-il.
Pour la santé, oui. Parce que la lactofermentation, c'est une fermentation lactique, ça veut dire. Et comme toutes les fermentations, en fait, on part d'un produit naturel, enfin, mettons
cru.
Chou. Et on va arriver à un produit transformé par la fermentation. Et donc, on aura un produit à la fin qui sera plus riche que le produit de départ. Donc, c'est ça le gros intérêt. D'abord, ça conserve, ça permet de conserver. Et en plus, ça enrichit le produit final. La choucroute est plus riche que si on mange du chou. Beaucoup plus de nutriments, etc. Donc, c'est ça l'intérêt aussi.
Comment on fait pour faire de la fermentation lactique? Parce que...
Alors, moi, je ne suis pas une fan de ça, hein, de le faire, mais parce qu'effectivement, des légumes comme les navets, une fois, j'ai mangé du concombre aussi, lactofermenté. Alors, autant j'adore le concombre, autant lactofermenté, ça n'a plus le goût du tout de concombre, ça n'a plus la consistance.
Ça a le goût de lactofermenté, en fait.
Donc, voilà, c'est bon. C'est une question
moi,
de
moi, je
goût.
Trouve que ça a l'air d'être prédigéré. Enfin, en même temps, pour le coup, c'est ça, en fait.
Oui, c'est
des
un
bactéries
peu ça.
Qui s'occupent du truc avant nous, quoi. Ouais. Alors que d'habitude, ça s'occupe... pour bon. Nous, à l'intérieur de nous, hein, pourquoi pas.
Sinon, par exemple, pour la choucroute, eh ben, on râpe le chou, enfin après les autres légumes, ça va être pareil, mais on le râpe très très fin, et puis on le met dans un récipient étanche, et puis on tasse, et on laisse en fait le jus du légume va sortir, et on va mettre, être un milieu anaérobie.
On tasse vraiment très fort. Hein,
on tasse bien, et puis pilon, on ferme le récipient. Et en fait, le jus va, comme on met du sel aussi, oublier. Donc on met du sel et du coup le jus du chou en l'occurrence va sortir dans la jarre et puis donc le chou va fermenter dans son jus, quoi.
D'accord. Voilà, donc c'est vraiment anaérobie, quoi.
Voilà, c'est anaérobie et puis après au bout d'un certain temps donc la fermentation va être finie mais le chou va rester
stable.
On pourra
ça explose ça, ça...
Non, j'avais jamais entendu ça. Le cidre, oui, mais la choucroute. Après, c'est pareil, la choucroute crue, par exemple, c'est très bon. Moi, j'en ai mangé un petit peu. Bah, c'est pareil, on va pas manger une choucroute. Souvent, ce qu'on aime bien à la choucroute, c'est les saucisses, c'est tout ce qu'il y a à côté. Alors que... Et la bière qui va avec. Non, c'est pas ça l'image de la choucroute pour vous.
Non, je suis ni trop viande, ni trop bière.
Moi non plus, c'est pas
la bière qui est aussi une manière de. Probablement,
c'est une fermentation aussi qui est très bonne aussi. Non, mais je veux dire, la choucroute crue, ça n'a rien à voir du tout. Ça n'a pas du tout le même goût. Et on peut en manger, on peut mettre ça avec une salade. Voilà, et c'est très bon.
D'accord.
Voilà, et la lactofermentation, c'est vrai que c'est au niveau digestif. Ça, par exemple, les gens qui ont du mal à digérer des légumes ou qui ont dit qu'il ne faut pas manger de légumes crus, ils peuvent manger des légumes fermentés. Parce que tu as déjà une partie de la digestion qui est... Enfin, ce n'est pas prédigéré, mais c'est déjà plus facile, quoi.
Ouais. En fait, ça repose sur l'acidification du milieu. Parce que la lactofermentation, ça produit de l'acide lactique.
Ferment lactique.
Donc ça produit de l'acide lactique, le même que celui qu'il y a dans les yaourts, des choses comme ça.
Le fromage, etc. Ouais.
Si j'arrive à imaginer que la choucroute, c'est quelque part du chou transformé en yaourt, c'est plus simple pour moi. Mais pas sûr que ce soit
encore.
C'est
pas une obligation, puis c'est pas à manger tous les jours. Hein. Nous, on avait un prof qui nous disait que c'est. Oui, mais regarde les vaches, on leur donne de l'ensilage tous les jours. Hein.
Ah, ouais, non, il faut pas donner de l'herbe.
Non, mais l'herbe aussi.
Il vaut mieux donner de l'herbe. Si vous avez des vaches, donnez-leur de l'herbe.
Non, mais voilà, c'est pas à manger tous les jours non plus.
Ah, tiens, on n'a pas parlé de la conservation au vinaigre.
Bon, en même temps, oui, il y a le vinaigre, il y a le sucre, il y a l'alcool.
Temps, c'est assez basique, la conservation au vinaigre, à l'alcool.
Pour les cornichons, par exemple, les oignons, tout ça.
Plonge les trucs à l'intérieur.
Non, il faut les frotter. Les cornichons, il faut les frotter.
Oui, les cornichons, oui.
Les saler, après tu les mets dans un bocal, tu mets du vinaigre.
Oui, moi, je n'ai pas fait trop de cornichons, je suis plus.
Voilà, donc après les oignons.
Je fais des cerises au vinaigre cette année.
Après, on peut conserver dans avec le sucre.
Ouais.
Donc quand on fait les confitures, par contre, on n'est pas du tout obligé de mettre trop de sucre. On peut mettre même pas la moitié de sucre, ça suffit. Mm-hmm. Pas cuire trop longtemps.
Après, il faut encore avoir une ressource en sucre.
Ressources en sucre, en France, il y en a en Picardie, justement.
Il y en a un peu, il y a de la betterave sucrière. Ouais, mais, c'est aussi un truc où il n'y a pas forcément du sucre très localement, en réalité.
Non, puis après, sur le plan alimentaire, nutritif et tout ça, manger des confitures, c'est quand même pas terrible. Quoi.
Non, c'est super cuit.
Que ce soit pour les dents, que ce soit pour ce que ça apporte. Mais
en termes d'équilibre acido-basique, c'est pas forcément top. Ouais.
Voilà, mais après, on mange aussi beaucoup pour le plaisir de manger. Hein.
Et ça compte aussi. Bon, ben on va s'arrêter là.
Conservation dans l'alcool, oui, mais après, oui.
Ben on va s'arrêter là. Conservation dans l'alcool ou dans le vinaigre, il s'agit la plupart du temps, le principe, c'est de plonger les aliments directement
dans l'alcool
ou dans le vinaigre. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui, je crois. C'est la fin.
Oui, et au niveau des livres là-dessus, j'ai regardé un petit peu avant de venir, là, mais... Je pense que le mieux, c'est de chercher aux quatre saisons sur Terre vivante, où il y a pas mal... Mais c'est souvent dispersé dans les bouquins.
Oui, souvent, il y a un bouquin sur la lactofermentation. Oui. Ça dépend de vos goûts, mais c'est pas plus mal non plus.
C'est juste que du coup, il n'y a pas un livre.
C'était Couleur Terre, une émission mise en peau grâce aux moyens techniques de Couleur FM en Isère. Une émission préparée par Titane Ben avec Laurent Forcheron à la technique, animée par Flo Emsev de Radio Permaculture avec Hélène Ollard. Vous pouvez réécouter cette émission, la télécharger, mais aussi la soutenir sur radioperma.org, tout comme vous pouvez vous inscrire à nos lettres de nouvelles pour recevoir directement nos nouvelles productions. À bientôt, Titane.
À bientôt, Floem.
À bientôt, Hélène. Couleur Terre, cultivons la vie.
Couleur Terre, cultivons la vie, une émission animée par Hélène Ollard, spécialiste en agroécologie, Floem Sève, spécialiste en permaculture et Lucie Aubin, journaliste, tous deux à retrouver sur Radio Permaculture et avec bien sûr notre ami fidèle Laurent à la technique.
Adressé aux jardiniers chevronnés, en devenir ou tout simplement aux curieux ou dépassés par leur jardin, une émission qui sera à votre écoute, à vos questionnements, en donnant de fertiles matières à réflexion.
Comment respecter la vie et intégrer ce respect dans nos pratiques culturelles, économiques et sociales?
Comment construire une agriculture saine et vivante, indispensable à l'humanité, et trouver une autre compréhension de l'écosystème urbain et rural?
Et pour ce faire, une équipe de choc et diversifiée se réunit à ce micro pour partager ensemble ses savoirs spécifiques.